da matin Camara, ancien président de l'Assemblée nationale.
Monsieur Damantan, la commission d'enquête revient avec un gros retard, mais ce retard était utilisé pour continuer les enquêtes au niveau de Conakry, avec beaucoup de recherches. Et nous pensons que ce retard aussi a permis à vous tous de réfléchir, de méditer vraiment la situation et tirer des conclusions de votre arrestation. Vous avez dû causer à l'intérieur de la maison, vous avez dû vous rejeter certainement certaines choses dans les critiques et autocritiques. Nous sommes venus donc avec une série de questions que nous allons vous poser de nouveau.
Première question. Vous êtes en détention il y a 9 mois. Livrez-nous vos réflexions dans le contexte du changement intervenu dans votre propre esprit d'une part, et d'autre part l'atmosphère au niveau de la maison d'arrêt en général, votre chambre en particulier.
Je voudrais tout d'abord dire que nous vivons dans un contexte que je peux appeler exceptionnel. Je ne suis pas un habitué de la situation que je vis actuellement, mais on peut deviner facilement que lorsqu'un changement intervient dans un état, que les anciens membres du gouvernement se retrouvent ensemble en détention, l'atmosphère qui règne dans ce milieu, on peut imaginer facilement que généralement ça évolue dans un sens non favorable au gouvernement qui a pris le pouvoir. Mais je suis sûr que mes camarades de détention partageront le même sentiment que moi. Parce que quand on change plus souvent de situation, on se livre à des réflexions. On se demande pourquoi. Ce qui m'a surtout frappé, moi, personnellement, dans cette maison d'arrêt, c'est l'orientation que prennent toutes les conversations. Je crois savoir que dès que nous avons été arrêtés, nous avons demandé le soir même, le lendemain même de notre arrestation, à écrire au comité militaire. Et l'officier qui nous surveillait ce jour-là nous a dit, vous pouvez bien écrire, mais pas de façon collective, vous pouvez écrire. Mais moi, dès que j'ai écrit, j'ai d'abord indiqué que j'acceptais le fait accompli et que je me mettais à la disposition du comité militaire. Mais à la suite, quand nous sommes arrivés à Kindia, nous avions l'impression de vivre un climat d'autocritique. Tout orateur qu'on écoutait, parce que nous, quand nous sortions dans la cour, on se mettait à causer. Mais tous ceux qui parlaient, et cela m'a frappé, relevaient tel ou tel fait qui était négatif, tel ou tel fait qui était négatif, ce qui nous a amenés ici. Alors, si bien que moi, j'en ai conclu que c'était une autocritique. Mais je ne me souviens pas avoir entendu quelques diatribes contre le gouvernement en place. Cela veut dire que consciemment, nous nous sommes reprochés des faits, c'est-à-dire nous avons senti que nous n'avons pas été à la hauteur de la situation que nous avions appréhendée. Cela est facile à expliquer, parce que je vous dirais franchement, étant sorti du gouvernement depuis 10 ans, puisque depuis 1974, je suis à l'Assemblée nationale, je vous dirais franchement que aucun ministre guinéen n'était responsable de son département. Personne ne pouvait prendre une initiative pour aller de l'avant. À chaque pas, on était bloqué. Et je crois que c'est ça qui a poussé la presque totalité des détenus à orienter leur critique vers notre propre responsabilité. Et cette responsabilité, je peux dire que c'est le président défunt qui la détient seul. Parce que tout le monde l'accuse. Et moi, personnellement, j'ai eu à plusieurs reprises à intervenir en plein conseil pour dire que j'avais très peur que nous ne faisions rien de positif, que nous piétinions et que le pays ne progresse pas. J'ai posé cette question, à savoir, le jour de la présentation du bilan, qu'est-ce que nous allons montrer au peuple? Le président Sékou Touré est rentré dans une colère furibonde. Puisque nous n'étions pas en bureau politique, on était en conseil. Il s'est retourné vers les autres et il a posé la question, il dit, vous l'entendez? Il emprunte maintenant le langage des contre-révolutionnaires. Il dit, mais je te répondrai en bureau politique. Cela m'a effrayé, parce que je connais des précédents. J'ai aussitôt demandé à deux camarades, quand on a levé la séance, de le suivre dans son bureau pour aller présenter mes excuses. Et vous pouvez demander à mes collègues, ils m'ont tous félicité que j'ai dit tout haut ce que chacun pense. Et ne le dit pas. C'est justement pour cela que les conversations qui sont nées dans l'enceinte de la prison ici étaient orientées vers une autocritique. Et j'ajouterais que nous en savons gré comité militaire de redressement pour le traitement humain dont nous avons bénéficié. Et depuis la dernière visite que vous nous avez fait l'honneur en fin septembre, de nous rendre en fin septembre, le moral est très bon. Nous avons espéré. Cela a été pour nous un ballon d'oxygène. Et le président aussi nous a envoyé à deux reprises un officier pour s'enquérir de nos nouvelles. Cela nous a vivement frappés. Et nous avons là saisi vraiment le sens humain que vous nous donnez. Et cela a beaucoup contribué à donner une nouvelle pensée à l'ensemble des détenus, de tout âge que nous sommes. Voilà pour la première question.
Dans votre précédente déclaration, vous avez fait état de l'échec économique enregistré. Cependant, vous aviez appartenu, et pour toujours, si on peut le dire, au Bureau politique national, qui a été l'organe de conception de tous les programmes de développement économique de notre pays. Est-ce que, ne serait-ce que moral, la responsabilité de cet échec, vous ne la partagez pas collectivement avec vos coéquipiers?
Je crois avoir répondu en partie à cette deuxième question, mais je voudrais dire que le bureau politique n'est pas l'organe de conception essentielle. Il peut concevoir, mais il est contenu dans un contexte. Le bureau politique conçoit soit pour le Congrès, soit pour le Conseil national de la Révolution. C'est ainsi que lorsque nous avons une réunion du bureau politique, bien sûr, chacun a droit à la parole. Vous pouvez dire ce que vous voulez. On discute en long et en large. Ça dépend de la question qui est inscrite à l'ordre du jour. Mais le secrétaire général voudrait bien que les décisions qui se prennent cadrent avec sa propre conception. Cela est indiscutable. Nous avons eu souvent des séances houleuses. Il y a le registre des procès-verbaux. Moi, je suis le secrétaire permanent, c'est moi qui tiens la plume là-bas. Des procès-verbaux, vous pouvez assister aux discussions. Vous pouvez les lire les procès-verbaux. Il est quelquefois mis en minorité, parce que si les autres, les 17 membres, si les 16 disent qu'il faut faire comme ça, lui seul, il n'est pas convaincu. Des fois, il peut refuser. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Mais comment refuse-t-il? Il ne nous dit pas là-bas, vous m'avez mis en minorité, je refuse. Mais il dit, bon, vous ne m'avez pas convaincu. Vous êtes tous braqués, vous ne m'avez pas convaincu. Mais allons devant le peuple. On va au palais du peuple, par exemple, en Conseil national de la Révolution. Vous avez là tous les membres du comité central. Vous avez toutes les fédérations. Vous avez tous les comités nationaux. Il repose le problème. Entre-temps, peut-être qu'il s'est arrangé avec un ou deux pour que celui-ci demande la parole. Celui-ci demandant la parole expose son point de vue qui cadre avec celui que lui, il veut. À ce moment-là, il pose la question de savoir quels sont ceux qui sont pour ce point de vue. Ou bien il peut donner la parole à d'autres personnes encore. Mais c'est déjà préparé. Il demande la parole. Il donne la parole pour demander quels sont ceux qui sont pour tel ou tel point de vue. Le point de vue que lui, il exprime, si celui-ci remporte la majorité, et ça remporte toujours la majorité parce qu'il prépare. Il discute d'abord avec certaines fédérations et ces fédérations-là l'adoptent en majorité. Quand c'est adopté, le bureau politique n'a plus voix au chapitre. Et nous sommes obligés de l'appliquer parce que le bureau politique est l'organe d'exécution, c'est l'organe exécutif. Il agit sur instruction, sur décision du Conseil national de la Révolution ou du Congrès, ou même du CRR. Quand un CRR se tient au palais du peuple, quand il prend une décision, cette décision est exécutoire, elle n'est pas discutable. C'est ainsi que, si vous demandez aux autres collègues, ils vous diront que très souvent, nous n'étions pas d'accord. Il y a des retards qu'on peut expliquer difficilement. Je prends un exemple, comme le barrage de Camarato. Moi, en tant que secrétaire permanent, je vais en mission à Moscou. Je rencontre Panamarev, qui est le secrétaire permanent du Parti communiste de l'Union soviétique. Nous parlons de coopération. Il rejette la responsabilité sur nous. Il dit, vous ne voulez pas qu'on travaille. Vous ne voulez pas qu'on fasse quelque chose. C'était en 79. Et il m'a dit, il y a longtemps que nous avons terminé, nous avons signé une convention, on a terminé l'étude de factibilité de ce barrage qui est en mesure de donner la lumière à toutes les villes de la forêt jusqu'à Cancan. Vous ne voulez pas qu'on le fasse. Simplement parce que lui, il a dit que c'est trop cher. Nous lui avons répliqué qu'il n'y a pas un État au monde qui n'est pas endetté. Si on a peur des dettes, on n'avance pas. Et ce barrage devait être terminé avant 82. Il n'a jamais été réalisé. Et aujourd'hui, si vous demandez le coût du barrage, il coûtera 4 fois plus cher que ce que nous devions payer. Et ce que nous devions payer, c'était une dette étalée sur plusieurs années. Nous serions en train de payer une somme 4 fois inférieure à celle que nous devons payer aujourd'hui. De même que pour d'autres actions, chaque fois que ça se soulève, nous voulons agir et nous bloquons. Alors, c'est-à-dire que vraiment, aucun de nous n'est convaincu d'avoir la pleine, une partie des responsabilités à assumer pour le retard économique que nous avons subi. Parce que chacun était décidé. Il était devenu tellement soupçonneux que quand vous présentez un projet, il pense que vous avez un certain intérêt derrière. La dernière fois, on m'a posé la question ici, de savoir que le président a dit que les ministres ont des comptes à l'extérieur, que lui, il a la liste. J'ai dit ici, s'il avait la liste là, il allait humilier tous ceux qui étaient intéressés. Il allait les humilier. Alors, si bien que les gens étaient découragés maintenant pour venir le trouver avec des projets. Donc, nous estimons que c'est lui qui a la responsabilité.
Oui, c'est ça que votre estimation
est oui. Oui.
Mais le peuple du Guinée, tout entier, rend responsable ce qui pouvait son système et ses compagnons de lutte, y compris son gouvernement, de l'échec économique, du marasme économique, des génocides que notre pays a enregistré dans le monde. Car vous avez une conviction. Des gens qui sont idéologiquement formés, qui ont suivi votre action, vos différents débats, qui ont eu la chance de vous observer, peuvent comprendre comme vous. Mais ma foi, celui qui a la Daba vers Daraba, vers Sigiri, vers Kourouta, vers Sigiri, auquel on essaie de réclamer l'unique génie qu'il avait dans son parc, auquel on essaie de réclamer le dernier grain dans ton grenier, le dernier grain de semence dans ton grenier là-bas, celui-là même qui abandonnait son champ pour vous applaudir à la réception, on ne peut pas le faire avaler, vous n'êtes pas responsable de ces échecs-là, c'est seulement le président de Jean qui est responsable. On ne peut pas le faire comprendre ça. Un autre aspect, c'est que la population, elle ne comprend pas que les élections se passent sur la base de son conduit tous les États et qu'elle vote pour vous, pour la représenter auprès des instances suprêmes, d'abord au comité central, ensuite au bureau politique, et qu'elle estime que c'est vous qui deviez défendre les intérêts du peuple. Mais si vous vous laissez abominer, excusez-moi du terme, par un seul homme, vraiment le peuple ne peut pas comprendre parce que le peuple vous a fait confiance en défendre les intérêts de ce même peuple. Si vous, maintenant, vous n'arrivez pas à le faire, donc il estimait que vous auriez dû vous démettre de vos conseils et reconnaître d'autres personnes. Même au prix de votre tête, parce que vous avez été élu normalement et plébiscité. Donc il ne comprend pas comment un homme est pu mener des gens sur lesquels le groupe l'a porté. On a le problème.
Parce que dans le groupe politique national, nous devons la vérité de vous dire qu'il y avait quelques-uns
même dans l'anonymat, qui avait le courage de persévérer sur la vérité. Je cite entre autres le regretté Saïd Diallo. Nous avons devant nous plus de 5 lettres de lui,
les lettres par lesquelles il contestait des faits, les lettres par lesquelles, avec insistance et courage, il soulevait contre certaines pratiques. Entre autres, je peux vous dire, cette lettre-là qui est intervenue à un moment où aucun être humain ne pouvait élever la voix contre les arrestations arbitraires, contre les exécutions sommaires, contre les multiples condamnations, contre les troupes de la fameuse cinquième colonne. Voilà comment la lettre est libérée. Citation, Saïfoulaye Diallo, vous savez, il appelait camarade Benoît.
C'est ça.
Bon. Il a fait des tralas, des préambules. Il a dit ici, citation du camarade Soukoutouré, secrétaire général du PDG. La chose que je hais le plus au monde, c'est l'injustice. Soyez juste même à l'égard de votre pire ennemi. Si après avoir pris une décision, vous rendez compte que vous avez fondé votre jugement sur les éléments d'appréciation erronés, il faut avoir le courage de revenir sur la décision afin de réparer l'injustice et ne jamais vous enfermer sur des positions d'amour propre pour certifier l'injustice. La justice est le fondement de notre régime populaire et démocratique. C'est une citation que, pour lui, maintenant, c'est Saïfon qui parle. C'est les considérations de ces nobles principes et à cause de ton amour tyrannique de la justice que je te supplie de créer à ton niveau, en complément des commissions d'enquête déjà existantes, une commission spéciale chargée exclusivement de revoir au pain premièrement les dossiers de tous les agents de la cinquième colonne, jugés par les équipes dirigées par le cynique Émile Cité, y compris les cas où les accusés auraient été déjà exécutés. Deuxièmement, le dossier de tous les détenus arrêtés sous dénonciation des agents de la cinquième colonne, interrogés par la même équipe. J'ai aujourd'hui l'ultime conviction que Émile Cité a fait dire par la torture tout ce qu'il a voulu par l'ensemble des détenus laissés à sa merci. À cet égard, je suis hanté à l'idée que des innocents aient pu être exécutés alors que j'ai la certitude absolue qu'il y a encore actuellement de nombreux innocents détenus dans nos prisons, victimes du machiavélisme satanique de ces Émile et de ses pareils. Il marque entre parenthèses, il y en a. Infiltré au sein des commissions d'enquête. Je t'assure que depuis le 9e congrès et surtout à la suite de nos entretiens à Troyes, je suis littéralement obsédé par cette question. Autant que possible, les membres des anciennes commissions d'enquête devraient être écartés de cette commission spéciale. Très fraternellement, le 2 novembre 1970. Alors ça, comme vous allez vous rendre compte, ça, c'est un écrit, ce n'était pas quelqu'un qui n'avait pas le courage, ne pouvait pas le faire. Et je le dis ici, on a plusieurs lettres de ce genre de lui. Les lettres par lesquelles il se levait catégoriquement contre certaines pratiques. Voilà ces lettres ici encore. Voilà des lettres encore ici. Suivez là. Et là, il a dénoncé les pratiques que vous venez d'avancer ici comme argument pouvant vous discuter. Voilà. Je viens de prendre PRG, je viens de prendre connaissance de ta lettre pointe. Après les éclaircissements de l'autre jour, voici quelques précisions. Premièrement, le pouvoir dispositionnaire n'a jamais été mis en cause et ne le sera certainement jamais par moi, car je sais qu'il est mieux plus qu'à tout autre dans l'équipe. Deuxièmement, ce que je déplore dans le fond, c'est l'attitude de la fonction publique. Après que tu m'aies révélé que Goa, Lai et Bangali sont tous des pharamas, je suis maintenant plus convaincu encore que si la fonction publique avait pris la précaution d'attirer ton attention sur les faits suivants, que tu sais que Goa n'a jamais été licencié, qu'il devait comparaître d'un moment à l'autre devant la commission d'enquête, que tu sais que Bangali faisait partie d'un lot de 24 demandeurs dont la requête est rejetée, que tu sais que Laïoulari était avec d'autres et que des propositions allaient être faites, si tu avais tout cela comme la fonction publique qui aurait réexaminé tes instructions. Tu aurais réexaminé tes instructions. Troisièmement, à moi-même qui a donné plus d'une fois des instructions sur lesquelles je t'ai fait revenir en te donnant des éléments d'appréciation que tu n'avais pas. Et les rares cas où tu m'as dit de passer outre ont été révisés, souvent à mon insu, directement par toi. Tous mes collègues se devraient d'adopter la même attitude vis-à-vis de toi, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. D'où les réponses qui consistent à dire « Allez voir le président » ou « C'est le président qui a décidé ». Ça, c'est entre guillemets. Quatrièmement, j'ai souvent eu des discussions avec des collègues sur le cas de l'excès ou sur d'autres cas. Aux uns et aux autres, j'ai toujours dit de ne pas hésiter à se saisir quand, évidemment, ils ont des arguments objectifs convaincants. J'avoue que quelquefois, j'ai reçu des réponses désarmantes. Je tenais à t'apporter ces éclaircissements pour que tout équivoque disparaisse. Vous savez, il signait sa liste. Alors ça, c'est, je dis, il y en a tellement, c'est des lettres que nous avons trouvées dans les effets du président de France. Et nous avons d'autres témoignages ici qui ont révélé exactement le contraire de ce que vous nous avez dit. Je serais d'accord avec vous, M. Camara, si vous me dites que vous avez peur de votre propre crâne. Mais dire que vous n'êtes pas convaincu de votre responsabilité face à l'histoire et face au peuple, je ne suis pas porté à le croire. Et la commission entière n'est pas portée à le croire parce que, à votre insu, on a organisé une émission. Une émission intitulée « À vous la parole ». Si le peuple de Guinée, ce que vous avez appelé alors la conférence de bouche ouverte, a été individuellement et démocratiquement organisée. Personne n'a été forcé, personne n'a été appelé. Chacun des citoyens venait librement juger ce qui pesait sous son cœur. Prouver, attester son témoignage sous tout ce que le peuple a enregistré comme drame pendant 26 ans de règne sous votre régime. Je dis, je vous le crois, que si vous avancez ces arguments devant le peuple de Guinée aujourd'hui, argument que vous croyez qu'il pourrait disculper le reste du bureau politique national alors que ce serait est décédé, je ne pense pas que cet argument puisse arriver à vous sauver la tête, sincèrement. Et entre autres, je me fais le devoir de vous signaler que si vous êtes en prison, vous êtes en sécurité, honnêtement. C'est l'une des causes pour lesquelles d'ailleurs le CNRN a jugé utile à vous mettre à l'abri. Si vous aviez suivi tout ce qu'on disait à la radio, vous seriez venu volontairement non seulement remercier la commission et le CNRN pour vous avoir mis en sécurité, mais de plus aussi pour faire votre meilleur culte pas devant le peuple. C'est cette prévision que j'avais à faire avec la permission du président de la commission.
Bon, je peux reprendre en deux mots. Je suis parfaitement d'accord avec vous que le peuple ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre, parce que la structure du parti est faite de telle manière que, à vue d'œil, on ne peut pas savoir qu'une personne puisse exercer une dictature sur l'ensemble de ses collaborateurs. On ne peut pas le savoir. Bon, ce que vous dites de Saïfon est strictement exact. Je suis l'un de ses confidents. J'ai lu la plupart de ses lettres. Quand il écrit, avant d'envoyer, il m'appelle. Surtout ces derniers temps, il écrivait beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu. Quand il se déplaçait moins, il écrivait beaucoup. Mais il a toujours dit la vérité et puis il a eu toujours un courage téméraire. Ce que j'avance, c'est ma conviction. Je ne dis pas que le peuple peut me croire, mais les cadres peuvent me croire. Parce qu'ils se plaignent tous, se plaignent tous. Et vous avez dit qu'on pouvait se démettre. Là aussi, il y avait des risques. Il y avait des risques. Vous vous démettez, ils pensent que vous êtes passé de l'autre côté. C'est ça. Mais moi, j'avais commencé à me préparer. Après le dernier congrès, je l'ai dit, j'ai dit, bon, moi, j'avance en âge. J'ai dit, au prochain congrès, tu me permettras de me retirer. Je lui avais déjà dit ça. D'accord.
Vous avez aussi dit la même chose.
Ben, se démettre, dès qu'il y a quelque chose, ils pensent que vous êtes maintenant disposé.